On va commencer les attachés au chapitre 28. Dans le chapitre 28, on a expliqué, le chapitre 28, on a expliqué qu'il y a plusieurs choses qui peuvent déprimer une personne. D'abord, ce qui peut déprimer une personne, c'est Dieu préserve lorsqu'il y a des malheurs qui arrivent dans sa vie. Et là, on avait expliqué longuement, dans le chapitre 26, comment, même si Dieu préserve des malheurs qui arrivent dans la vie, il faut garder la simcha, on avait donné des techniques pour ça. Ensuite, dans le chapitre 27, le dernier chapitre qu'on a fait, on a expliqué que des fois, le béni, il est déprimé pour autre chose. Il n'est pas déprimé parce qu'il a des problèmes de santé, ou parce qu'il a des problèmes dans sa famille, etc. Il est déprimé pour des raisons spirituelles. Pourquoi pour des raisons spirituelles? Parce qu'il se dit, avec tous les efforts que je fais, comment ça se fait que ça ne prend pas? Comment ça se fait que ça n'attrape pas? Et là, on a expliqué longuement dans ce chapitre qu'en vérité, il n'y a pas de raison d'être déprimé. Il faut se dire qu'au contraire, chaque fois qu'on repousse le Yetzarara, c'est une mitzvah. Chaque fois qu'on repousse une pensée négative, on est en train de faire une mitzvah. Et rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, que Akadosh Baruch Hu, il a autant de plaisir du travail d'un bédoni que du travail d'un tzadik. C'est quoi le travail d'un tzadik? C'est de faire de la performance. C'est quoi le travail d'un bédoni? Le travail d'un bédoni, c'est de se battre avec son Yetzara. D'accord? Se battre constamment avec son Yetzara. Et enfin, on avait expliqué, ça c'est le dernier cours qu'on a fait, que se battre avec son Yetzara, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire se retenir de faire des averot. Mais se battre avec son Yetzara, ça veut dire aussi faire itkafia.
Ça c'était le
grand mot de la semaine dernière. C'est quoi itkafia? Ça veut dire ne pas trop sombrer dans les plaisirs matériels. Se retenir. Vous rappelez l'exemple des boules de glace? Au lieu de 3 boules de glace, 2 boules de glace.
Et en plus, il attend une demi-heure.
Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la notion de itkafia. Que le Benoni, il se travaille comment? Il se travaille en se retenant. Et chaque fois qu'on se retient, c'est une mitzvah qu'on fait, c'est comme un sacrifice qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était pour rassurer le Benoni, pour lui dire ne t'inquiète pas, ne sois pas déprimé si t'as des pensées tordues qui t'arrivent dans la tête, d'accord? Fais ce que tu peux pour les repousser, mais sache que ne sois pas déprimé de ça, tu n'es pas de sadique et c'est normal, et sache que Akadosh Baruch Hu, il te juge pas à la performance, mais il te juge par rapport à l'effort fourni. Et Akadosh Baruch Hu, il voit l'effort qu'on a fourni. C'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, on va rentrer dans le chapitre 28, à un cas différent, à une nouvelle sorte de déprime. C'est une personne qui est déprimée pour une raison particulière. Et là, vous allez voir ce que je veux dire. Là, c'est très particulier. Imaginez la scène suivante. Imaginez, vous êtes en train de faire votre Amida. D'accord? Au passage, une petite blague. On raconte qu'il y avait un rave. Chaque fois qu'il terminait l'Amida, il disait aux fidèles, Bruchim Abayim, bienvenue. Alors, j'avais dit, mais pourquoi vous Bruchim Abayim? Il dit, parce que j'ai vu, il est parti à Hong Kong, l'autre il est parti en Chine, l'autre il est parti à New York, l'autre il est parti en Israël. Alors maintenant que vous êtes revenu, je vous dis, Baruch Hima Baim, bienvenue. Ça veut dire que la Mida, c'est très souvent un moment dans lequel l'esprit y part. Là, ce qu'on va expliquer maintenant, écoute, imaginez ce cas. Imaginez une personne que pendant la journée, bon, il arrive, grosso modo, à maîtriser ses pensées. Bon, Baruch Hashem, il fait comme il peut, il arrive à maîtriser ses pensées, pas faire d'avérante. En tout cas, il arrive à ne pas penser à des bêtises. Il vient à la synagogue, il se lève à l'heure, il étudie Chassidut avant, il vient à la tfila, etc.
Normal, quoi.
Et là, normal, d'accord, il fait tout ce qu'il faut. Et là, quand il arrive en pleine Amida, il y a une image qui lui vient dans la tête, mais une image que, même pas en rêve, il aurait pu avoir cette image-là. D'accord? Alors là, c'est différent du cas la semaine dernière. Dans le cas la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, c'est pas grave, c'est en pleine journée, des fois, t'as les pensées qui te viennent, etc. Mais là, c'est différent. Là, on parle d'un cas dans lequel, au moment où tu es au moment le plus fort, c'est là que le Yetzara, il t'attaque. Je sais pas si ça vous arrive. Du style, par exemple, t'es devant un tzadik, t'es dans une session de Gdusha, t'es en pleine Neila du Yom Kippour, dans un moment Kadosh. Et t'as une pensée, mais aucun rapport qui te vient dans la tête. C'est un truc, mais à l'ouest, complètement à l'ouest. D'accord? Alors, ça, c'est très déprimant. Pourquoi c'est très déprimant? Parce que tu dis comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais attends. Tu t'imagines? Si dans un moment tellement kadosh, j'ai des pensées tellement tordues qui me viennent, ça veut dire que ça doit vraiment être pourri à l'intérieur. C'est comme ça qu'on se dit. Et on a raison de penser comme ça. Ah, imagine-toi, voilà. Imagine-toi en pleine Neila, Yom Kippour, moment le plus fort, tu te retrouves devant le Sefer Torah à avoir une pensée, mais complètement sale et tordue. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette pensée? À ce point, c'est pourri à l'intérieur, il n'y a rien. J'ai pas de sensibilité. Donc ça, c'est une autre sorte de déprime. Alors là, bien sûr, j'ai fait une caricature. J'ai pris la Neila Yom Kippour et j'ai pris... Mais en vérité, c'est des choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours, comme par exemple des gens qu'ils ont un cours par semaine. D'accord? Ils ont un cours par semaine. Par exemple, il va étudier une heure par semaine. Et bon, toute la semaine, les choses se passent plutôt plus ou moins bien. Et dès qu'il vient au cours, dès qu'il sent que ça prend, bah, là, il y a un truc qui vient dans la tête. Il commence à avoir une pensée pas cachère ou une pensée de colère ou une pensée de je sais pas quoi. Il dit, mais attends, je comprends pas. Pour une fois que je viens étudier la Torah, maintenant tu me prends la tête. Il dit quoi? C'est-à-dire qu'à ce point, l'intérieur, c'est pourri. D'accord? Ce qu'il va expliquer ici. Il va expliquer que non seulement c'est pas pourri, mais au contraire, c'est un bon signe. Mais on va expliquer. Donc, chapitre 28. C'est un bon signe. C'est un excellent signe. Alors. Va filou, imnoflim. Ah oui, c'est un scoop, hein.
Bah ouais.
Voilà, ça, je me rappelle. La première fois que j'ai étudié ce chapitre, ça m'avait, ça interpelle. Bonsoir. Va filou, imnoflim lo irureta avot. Imaginons. Donc, vous avez le chapitre 28, c'est page 31. Vous avez des livres devant vous. Il y a assez de livres pour tout le monde? Va filou, imnoflim lo irureta avot. Même s'il a dépensé, d'accord, ta avot, dépensé de désir. Usha marchavot zarot. Et d'autres pensées étrangères. Parce que quand on a une pensée étrangère, ça, il faudrait que je m'arrête un petit peu dessus. Une pensée étrangère, c'est pas forcément en train de penser à une bêtise avec une femme. Une pensée étrangère, ça peut être une pensée qui n'a rien à voir avec la tila. On est d'accord? Ça s'appelle aussi une pensée étrangère. Parce que marchavot zarot, zara en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est étrangère au moment. Alors, en quoi elle est étrangère? Soit parce qu'elle est complètement tordue, soit parce que à 2h l'après-midi, elle aurait été bien, mais maintenant, elle a rien à faire ici. Hein? Même si l'Yitzhara, il fait que les meilleures idées d'affaires, on les a pendant la Mida, mais elle a rien à faire ici, cette pensée. Ok? Alors, justement, il dit, Ubishata avoda, ubatora. Lorsqu'il est en train de se casser la tête dans la Torah, il est en train d'étudier la Torah, et justement, au moment où il est en train d'étudier la Torah, pac, il a une pensée à aucun rapport. Il essaye de se concentrer chez lui à la maison, sur une Mishnah, sur une Gemara, sur une page de Tania. Et dès que ça y est, ça fait un quart d'heure, 20 minutes, il est dedans, il sent que c'est en train de prendre, tout d'un coup, pff, il a une pensée à aucun rapport. Il dit, oui, mais tu te rappelles ce qu'il t'a fait celui-là tout à l'heure? Mais quel rapport maintenant? Et tac, ça tombe dans la tête. C'est déprimant. Au but de fila avec Kavana. Ou bien, il est en train de faire la fila avec Kavana. Parce qu'il y a des jours où on fait de fila avec Kavana, des jours où on fait sans Kavana. Il y a des jours où c'est creux. Il y a des jours où tu sens, pac, ça prend, ça y est. Tu sens que ça décolle. D'accord? Seconde. Tu sens que ça décolle. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Tout d'un coup, tu te sens, tu vas avoir une pensée complètement soit tordu, soit déplacé, qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que te dit la Gemara Zaken? Il te dit, Al Yashit Lev Alein. Alors attention, là il y a un piège, j'en ai pas tombé. Et là écoutez bien ce que je veux dire. Il y a un piège dans lequel on veut tomber des fois, c'est qu'on a envie de se battre avec une pensée. Vous me suivez? Par exemple, je suis en train de faire maintenant ma tfila, j'ai une pensée qui me vient dans la tête. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire, non, mais c'est pas normal de penser à ça maintenant, etc. J'ai envie de me battre avec la pensée. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas du tout. Il te dit, vous savez c'est quoi la meilleure façon, vous savez c'est quoi la meilleure façon de se débarrasser d'un problème? En tout cas, un problème comme ça? C'est de faire comme si qu'il n'était pas là.
De l'ignorer.
Tu l'ignores. Ne commence pas maintenant à te battre avec la pensée. De dire, oui, mais comment c'est possible dans un moment comme ça? J'ai pensé à ça. Ça veut dire que certainement j'ai pas fait de tchouva, et ça veut dire que ça. Et ça veut dire que, et ça veut dire qu'en vérité je suis pas à fond dedans. Al, yashit, lev, aléen. Qui ne prête pas attention à cette pensée. Et là, il y a siarda tomehem, kiraga. Il faut détourner son esprit tout de suite. Et ça, c'est un grand piège, lui, ça. Vous allez voir comprendre pourquoi. D'accord? Et il te dit, attention! Il te dit, il y a des fois des gens qui vont penser, ils vont dire non, mais c'est pas grave. S'il y a une pensée pas bien qui n'est pas venue dans ma tête, alors je vais essayer d'élever cette pensée vers un kadosh baruch hu. Je vais essayer de raffiner cette pensée. Et bien, maintenant, on voit ça chez les tzadikim. Les tzadikim, ils ont ça. Vous savez ce que c'est chez les tzadikim? Un tzadik, dès qu'il a une pensée tordue qui lui vient dans la tête, il s'arrête pour essayer de la raffiner. Pourquoi? Parce que cette pensée n'est pas la sienne. Si elle est venue dans sa tête à ce moment-là, c'est que Dieu, il veut qu'il s'occupe de cette pensée. Parce que chez un tzadik, il n'y a rien qui vient par hasard. Alors nous maintenant on va se jouer tzadik, tu vois. Le gars il a une pensée qui lui vient dans la tête, il va dire attends, je vais penser, je vais réfléchir maintenant, pourquoi j'ai eu cette pensée, qu'est-ce que je vais faire, je me mets, il te dit non. Tu n'oublies pas, t'es pas tzadik. N'oublie pas. Le tzadik, comme il sait qu'il n'a rien à voir avec ça, lorsqu'il a une pensée, tout d'un coup il se met à penser à madame Intel qui habite là-bas. Pourquoi il pense à elle? Parce que certainement il y a un message de Dieu, elle a un problème, faut aller la voir. Elle a un problème, il y a quelque chose. Mais moi, je suis pas tzadik. D'accord? Donc moi, si j'ai une pensée comme ça, il te dit, ne pense pas un seul instant. Tout de suite, tu écartes ton... Il y a six heures toi-même qui raga en un instant. Et ne pense pas, ne fais pas l'erreur de dire, comme il dit ici, Vega, mais aussi, al yehi shoté, qu'il ne soit pas bête. La sok be'a la hat amidot shel marchavat zara kanoda. Qu'il ne fasse pas la bêtise d'essayer d'élever cette mauvaise mida vers un kadosh baruch hu. Du style, vous savez ce qu'est élever une mauvaise mida? Par exemple, quand on pense à un mauvais, quand on pense à quelque chose de pas bien, d'accord? Alors, il y a une énergie dedans. Par exemple, imaginez par exemple que il est en train de penser, il était en plein, je sais pas, mais il est en train de faire sa amida et il pense à un morceau de jambon, ma boule, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, attends, tu sais quoi? Ah, je pense à un morceau de jambon. Tu sais ce que je vais faire? En vérité, je vais élever l'énergie de cette pensée. Et au lieu de penser à un morceau de jambon, je vais penser à la dafina de Shabbat. Puis si tu vois, il va se battre avec la pensée. Pour dire, tu me proposes ça, tac, je te propose ça. Il te dit, ne rentre pas dans ce piège. D'accord? Vous comprenez dans votre esprit pour les autres exemples. D'accord? Voilà. Je donne des exemples de viande et vous comprendrez dans votre tête les autres exemples. Alors. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, le Yetzirah, je peux me dire, on me met une pensée dans la tête, je vais me battre avec la pensée. Comment je vais me battre? En essayant de l'élever. Tu m'as proposé ça, je vais te proposer ça. Allez, ping-pong, tac au tac. Je te dis non, ne rentre pas dans ce piège. Ne rentre pas dans ce piège, et ça c'est quelque chose sur lequel le Baal Shem Tov insistait beaucoup. Il dit qu'un des plus grands pièges du Yitzhara, c'est quand il arrive à avoir un temps de pensée dans ta tête. Vous savez, c'est comme dans les médias. Les gens, ils se battent pour avoir un temps de parole et un temps dans le journal télévisé. Et plus tu gagnes du temps dans le journal télévisé, plus c'est gagné. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. On a parlé de toi. C'est la même chose. Le Yitzhara, si t'as parlé de lui pendant une heure, il est content. Maintenant, peu importe que tu l'as écouté ou que t'as dit qu'il fallait pas l'écouter, mais t'as pensé à lui. T'es en train de dire, oui, je vais pas t'écouter. Maintenant, tu parles de lui. Tu parles que de lui. Tu dis, ne pense pas à ça. Tu ne penses pas à lui. T'es en train de faire ta tefila. T'as une pensée tordue qui te vient dans la tête. Fais comme si qu'elle n'est pas venue. Tu continues. T'inquiète pas, heureusement, pour faire tes choix. Donc, il te dit, tu continues comme si de rien n'était. Kilo nemrut varimahem et la tzadikim. Pour quelle personne on a dit qu'eux, ils ont la capacité d'élever, comme on a expliqué, quelque chose de, donc, un mauvais trait de caractère? Et une mauvaise pensée, seulement pour les tzadikim. She'en noflim marshavot zarot shelahem. Que aux tzadikim, ils ne leur viennent pas leurs mauvaises pensées. Alors ça, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire que lorsque j'ai une mauvaise pensée, et que j'arrive pas à la gérer, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait un transfert de pensée, et il met ma pensée chez le tzadik. Vous entendez?
C'est-à-dire que nous, on a pensé...
Comme je suis attaché au tzadik, et que des fois, à Kadosh Baruch Hu, il sent que j'arrive pas. Et le tzadik, il dit à Kadosh Baruch Hu, dès que tu vois qu'il y a un de mes chassidim qui est bloqué et qui arrive pas avec une pensée, tu prends la pensée, tu me l'envoies. Et donc le tzadik, comme lui, il est béton, donc dès qu'il a la pensée, il sait que c'est pas à lui, cette pensée. Donc là, dès que la pensée arrive, il s'en occupe. Il s'en occupe et il la gère à la place de son chassid. D'accord? Comme ils disent, hein?
C'est un kiff, ça.
C'est un grand kiff. Il faut être attaché à Rabbi.
Faut avoir un tzadik. C'est
le film du Tanya. Chapitre 28. Vous voyez les épisodes. Là, c'est l'épisode 28. Alors.
Il est où le tzadik à la synagogue?
Chien ne flim laem, marchavot zara shelem. Donc, les tzadikim, étant donné qu'ils n'ont plus d'âme animale, rappelez-vous, les tzadikim, ils n'ont, les mauvaises pensées qui viennent dans leur tête, c'est pas leurs mauvaises pensées. D'accord? Et ça, on l'a vu chez les tzadikim. Par exemple, on sait, il y avait une histoire avec le Admour Haemtsaï. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Une fois, il y a un élève qui est venu voir le Admour Haemtsaï et qui lui a dit, Rabbi, je vous demande une bracha pour avoir des bonnes pensées, etc. Vous savez ce qu'il a fait, le Rabbi? Admour Haemtsaï. C'est un des rabbis précédents de Lubavitch. Il a poussé comme ça sa chemise. Et il lui a montré comment toute la chair était fripée comme ça, comme si qu'il était avec des champignons. Et tu vois ça? Tu sais, c'est à cause de quoi, ça? Ça, c'est à cause de tes avérotes, à cause des pensées que t'as eues sous ta conversion.
Les pensées que t'as eues?
Khatot Neorim. Des pensées à cause des petits staffés quand t'étais jeune. D'accord?
Ça va,
oui. Le tzadik qui récupère ça. Ça, c'est un tzadik. Parce qu'un tzadik, c'est comme la tête, et nous, on est comme les pieds. Donc voilà, donc le tzadik, enfin, ou les pieds, ou les autres membres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzadik, comme le tzadik, il sait que les pensées qui lui viennent, c'est pas les siennes, donc il peut se permettre de dire, la pensée qui vient, je vais me battre avec elle pour aider mon chassid. Mais ça, c'est un tzadik. She'en lahem marchavot zarot shelahem, d'accord? Seulement, Michel Acherim. Les pensées que les tzadikim ont sont pas, les mauvaises pensées sont pas d'eux, mais sont des tzadikim. Mais, nous qui ne sommes pas tzadikim. D'accord? S'il y a un tzadik dans la pièce qui se présente. Alors, justement. Aval, mais, Michelofello, Michelo. Celui qui a des pensées à lui. C'est-à-dire, c'est des pensées, qu'on appelle ça, c'est des pensées qui sont sur mesure. C'est-à-dire, il pense à ce qu'il a vu, etc. C'est pas un truc, aucun rapport qui vient dans la tête. C'est des pensées qui sont à ma taille, qui sont faites pour moi. C'est des mauvaises pensées qui sont à moi. Là, il te dit à ce moment-là, mais prina tara, chez Belibo, chez Bechala la semaine. D'où viennent ces pensées? Elles viennent pas de l'autre, elles viennent de moi, elles viennent de mon côté gauche, elles viennent de mon Yetzara. Eh, y'a allé les mal, avez-vous, est-ce me coucher les matins? Là, une phrase extraordinaire. Il dit, comment tu veux élever ces pensées vers le mal, alors que toi, tu es attaché en bas?
Oui.
Le tzadik, comme le tzadik, il n'est pas attaché en bas avec des chaînes. Donc le tzadik, il prend la pensée, il la lève. Mais moi, je suis attaché en bas. C'est-à-dire, même si je prends la pensée, je vais la lever. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis bridé, je suis bloqué. Donc, tu perds ton temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai une pensée comme ça qui vient en plein milieu de la Mida, en plein milieu de l'étude de la Torah, en plein milieu, etc., qu'est-ce que je fais? Je l'ignore. Je fais comme si qu'elle n'était pas là.
C'est pas facile, non?
D'accord. Bah, bien sûr. La seule façon d'ignorer, c'est quoi? C'est de penser à autre chose. Donc, c'est quoi l'autre chose? Continuer ce que je faisais avant, comme si de rien n'était. Parce que, quand on se bat avec une pensée, elle revient. Vous comprenez? Par exemple, je vous donne un exemple.
Mais c'est quoi la pensée?
Hein, si je vous dis par exemple 1 plus 1 est égal à 2, et je vous dis maintenant, n'y pensez plus que 1 plus 1 est égal à 2, c'est quoi la seule façon de plus y penser? Vous y pensez tous là, hein? C'est quoi la seule façon? C'est de passer à la suite du cours, de faire comme si j'ai rien dit. Et là vous allez oublier, et encore. C'est comme ça. Ça veut dire que la seule façon de passer à côté d'une pensée, d'accord, donc de l'enlever, c'est de l'ignorer et de faire comme si qu'elle n'était pas là et de passer à autre chose. Faut pas se battre, avec ça.
Mais ce qu'ils disent. Si pendant que tu es dans l'amida, tu penses à autre chose, ça veut dire que tu n'es pas dans l'amida.
Ah, voilà, très bien. Donc là, tu poses une question de fond. Là, pour l'instant, c'est une question de forme qu'on a posée.
C'est Germain en train de faire.
Exactement. Très bien. Très bien.
Ça veut dire que tu as des oreilles à droite ou à gauche.
Ou bien ça veut dire que ça doit être vraiment pourri à l'intérieur.
Ouais, aussi, sûrement. C'est sûr. Il y a un peu de champignons,
un peu
mais.
Voilà. Non, mais il n'y a pas un peu. Il t'envoie une pensée, aucun rapport pendant la mida. Mais un truc grossier que t'as même pas idée comment c'est vu.
Voilà, donc j'étais pas dedans. Alors.
Un truc, aucun rapport.
Non, mais c'est comme
alors,
des fois, t'as des flashs.
Alors, justement, il y a une question de forme, une question de fond. La question de forme, qu'est-ce qu'on a dit? Quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je la repousse. Bon, imaginons que je l'ai repoussé. D'accord. J'ai pas fait le malin, j'ai pas fait le sadique, j'ai pas voulu lever cette pensée. Je l'ai repoussé. Et je pense à autre chose. Bon, je termine ma tefila, tant bien que mal, je termine ma tefila. Après ma tefila, je pense à ça, je dis, mais attends, comment j'ai pu penser à ça? Là, tu me dis, mais attends, quoi, n'y pense pas. D'accord, pendant la tefila, j'ai pas pensé, mais maintenant, comment j'ai pu penser à ça?
Tu fais le bilan après?
Bah oui, ça veut dire, quand viendra le moment du bilan, ou après la tefila, ou la prochaine fois que je ferai un bilan, je me dis, mais comment c'est possible que j'ai eu une pensée comme ça pendant la mida? Comment c'est possible que j'ai pensé comme ça pendant la tefila? Donc, évidemment, quand j'y réfléchis, ça me rend déprimé, ça me rend triste. Qu'est-ce que te dit l'Admor HaZaken? Et là, on va aller dans les mots, dans la page 33, d'accord? Il te dit, Afal Piken, quand même. En haut de la page 33. Afal Piken, quand même. Ah, Lipol, Libo, Bekirbo. Il ne faut pas qu'il soit abattu intérieurement. Liot, Mise, Etsev, Nivze, Beshaata, Avoda. D'être à cause de ça, déprimé, et se sentir moins que rien pendant son service. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Il te dit, non seulement que tu vas pas être déprimé, et la draba, il trazait que terre. Il faut me renforcer encore plus dans ma tefila et dans mon étude. Veille aussi au metz, et il faut rajouter de la puissance, bechol koro, de toute sa force. Be kavanat et tefila, bechedva, ve simcha, etc. Quand t'as une pensée tordue qui te vient pendant ta tefila, tu dois continuer ta tefila avec plus de joie qu'avant. Ouais, plus de joie qu'avant. Ça, on vit dans le déni, là. Le gars, il a une pensée complètement aucun rapport qui vient, et il dit non, je suis joyeux. Joyeux de quoi? T'as vu ce qui vient de se passer là? T'es en train de penser à la Nehila, tout d'un coup t'as une pensée tordue qui vient dans la tête, t'as pas honte? Et t'es joyeux? T'es joyeux de quoi? Regardez l'idée extraordinaire que tu vas expliquer ici. Avant d'avancer, je vous pose une question très simple. D'après vous, pourquoi elle est venue maintenant cette pensée pendant l'amida? Pourquoi elle est pas venue avant? Pourquoi cette pensée tordue que j'ai pas eue pendant toute la journée, je l'ai eue pendant l'amida?
Je l'ai pas concentré.
Parce qu'on a engagé quelque chose.
Et pourquoi pendant la journée j'étais concentré le reste du temps?
J'étais concentré. J'étais dans l'univers. J'étais pas concentré. Donc, j'étais dans l'univers Chol.
Oui.
Et j'étais. Quand on est dans l'univers Chol, en général, on est pratiquement jamais dans l'univers Kadosh.
D'accord.
Mais quand on est dans l'univers Kadosh, comme par hasard, souvent on est dans l'univers Chol.
Mais pourquoi cette pensée tordue qui me vient maintenant, elle n'est pas venue plus tôt?
Parce qu'elle était noyée dans le flot du Chol.
Il voit que tu es en train de monter, alors il veut aussi
te descendre. Écoutez bien ce que tu disais.
Oui. Plus tu montes.
Là, vous avez un grand secret, là.
On était concentrés.
Maître Dan. D'accord. Alors, on voit ceux qui sont au deuxième passage. Alors, qu'est-ce qu'a dit Dan? Hein, bah oui. Qu'est-ce qu'a dit Dan? Il dit quelque chose de très simple. Très simple, mais très fort. Le Yitzhara, quand tu sens que tu avances, lui aussi veut te montrer ses muscles. Quand j'étais toute la journée en train de faire mon travail, je le dérange pas, le Yitzhara. Donc, il me montre pas ce qu'il a dans le ventre. Mais quand je viens pendant la Mida, et que je lui montre qu'aujourd'hui, ma Mida, elle a grave décollé. Ça marche!
Il sort les dents.
Le Tsar, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il croit celui-là? Il croit que moi, comme ça, il s'est mis par terre. Je vais lui montrer qui je suis. Alors c'est vrai qu'il t'envoie une pensée qui est très très dure parce que il voit comme il voit que tu montes, donc il veut te mettre une claque, il veut te mettre comme ça, il veut te mettre par terre. Mais le fait que cette pensée elle vient, hein, ça ne veut pas dire que c'est pour rien à l'intérieur. Au contraire, ça veut dire que ta tefila est en train de marcher. Donc tu dois être besimra. Parce que s'il a cette réaction, ça veut dire que ton action marchait bien. Si ta tefila a été nulle, le Yitzhara t'aurait laissé tranquille.
C'est-à-dire, si je ne suis pas dérangé, ma tefila est
nulle. Et je vous dis, il va donner un exemple. Presque, ça veut dire presque ça, oui.
C'est
pas forcément cause à effet, mais oui, c'est pratiquement
c'est
ça.
Presque ça.
Presque ça, oui.
Donc tu dis merci.
Normalement, quand je fais une bonne tefila et que je me force et que j'avance, il doit avoir de la résistance.
Il n'y a pas de résistance, c'est que...
S'il n'y a pas de résistance, c'est qu'on se repose sur ses acquis. Dès que je me dépasse, c'est là que je sens que ça fait mal. C'est comme un muscle, d'accord ? D'accord. Quand par exemple, je vais porter quelque chose, je vais forcer sur un muscle, qu'est-ce qui va se passer ? Il va me faire mal. Je dis, il t'a fait mal, t'as vu, tu n'étais pas capable. Mais non, pas du tout. S'il te fait mal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en train de réagir. Donc c'est bon s'il réagit.
Tout à l'heure, tu parlais de la Neila, mais on ne dit pas qu'à Kippour, normalement, le Yetzer Hara, il est au chômage ?
Certainement, oui. Certainement, bon, il y a un Yitzhara qui peut être toujours là. Le Yitzhara, il n'est pas comme d'habitude, mais le Yitzhara, tu sais pas quand il vient. Tu ne prévois pas. Il y a des moments dans lesquels on le sent moins, mais tu ne prévois pas. Tu es en plein amida, un moment tranquille, aucun rapport, pas qu'il te met un truc dans la tête. C'est quel rapport maintenant ? Au contraire. Ça prouve que tu avais une grande Kedusha, et c'est pour ça qu'il est en train d'embêter.
Donc tu le remercies ?
Et ça, la vérité, c'est quelque chose que. Hein,
tu le remercies ?
J'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit
non,
ça.
Voilà.
Il va donner un exemple très simple. D'accord ? Regardez. Lorsque tu as, par exemple, j'ai jamais assisté à ça, mais apparemment, lorsqu'il y a un ring, boxe, d'accord ? Bon, à un moment, on appelle pas ça les joueurs, comment on appelle ça
boxeurs,
les,
hein,
les boxeurs. À un moment, ils s'essoufflent.
Ils s'amusent.
D'accord ? À un moment, ils s'essoufflent, tu vois, c'est au début, bon, ça cogne. Après, à un moment, ils s'essoufflent. Et là, bon, ça se calme, d'accord ? Et bon, ça peut durer comme ça pendant un certain temps, c'est-à-dire comment après, finalement, chacun y joue, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe finalement. Ça peut durer comme ça. Combien de temps ça peut durer, David ?
15.
Hein ?
15 rounds.
Combien ?
15 rounds.
15 rounds. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Les spectateurs, ils s'ennuient, il n'y a rien qui se passe. Ils sont chacun en train de s'amuser. Et après un moment, tu vois tout d'un coup, il y en a un, pack ! Il prend la puissance, tu vois, dans ses yeux, il est là, il va tout cogner, il va tout casser. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre ? L'autre, il va dire, mais attends, qu'est-ce qu'il croit celui-là ? Et pourtant, des fois, c'est quelqu'un qui était à plat. Il était en train de s'effondrer. Mais quand il voit que l'autre est en train de se réveiller, qu'est-ce qu'il dit ?
Il reprend des forces.
Il dit, mais moi, je vais lui montrer ce que je suis capable de faire. Et il reprend des forces. Alors, est-ce que le fait que l'autre a repris des forces, ça veut dire que moi, je suis nul ? Et non, au contraire. Avant, il n'a pas repris des forces parce qu'il n'y avait pas besoin de reprendre des forces. Parce que les deux, on était nuls. Mais maintenant que moi, j'ai repris des forces, lui aussi, il a repris ses forces. Donc, le fait qu'il a repris ses forces, c'est une preuve que moi aussi, j'ai repris mes forces. Donc, c'est un bon signe. Donc c'est un bon signe. Alors je dis pas qu'il faut les chercher. Je dis pas que maintenant, dorénavant, l'indicateur sera à la fin de la tefila. Bon, est-ce que j'ai une pensée tordue aujourd'hui ? S'il y a, c'est bon. S'il y a pas, c'est pas bon. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord ? Sauf que sachez qu'une des armes du Yitzhara, c'est de temps en temps, il t'envoie comme ça une grosse pensée pour essayer de te déprimer, parce qu'il sait que la réaction naturelle, c'est la réaction qu'on a tous eu au début du cours, de dire oui, si je le raconte comme ça, c'est que certainement c'est pourri à l'intérieur. Alors que c'est exactement le contraire. On peut pas mieux faire que ça. C'est exactement le contraire. Non seulement que c'est pas un signe que c'est pourri à l'intérieur, parce que de toutes les façons c'est pourri à l'intérieur. Mais au contraire, c'est un signe que c'est en train de bouger. Donc faites Bessimra. Faut continuer l'amida avec Bessimra. J'ai Baruch Hashem, amida elle marche. C'est bon, j'ai cogné. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ce qu'il dit ici. Donc Bessumo el Libo. Il faut se réjouir, d'accord, en se disant, au passage, une petite parenthèse avant d'avancer dans les mots, ça en vérité, là je dis par rapport à la tefila, par rapport à la Torah, mais ça on l'a partout dans la vie.
Ouais,
par exemple, relation entre un homme et une femme. Pas rester des années comme ça, enfin des années, bon, c'est compliqué des années peut-être, mais dans lesquelles c'est, bon, c'est dans lesquelles c'est, voilà, il n'y a rien de particulier qui se passe. Et à un moment, quand un il fait des efforts, pac, il se prend de l'autre côté, il dit, mais attends, je comprends pas. Pile quand je fais des efforts, je me tape sur la tête.
Alors je
ne fais
plus rien.
Je fais plus rien. C'est ça la réaction naturelle. J'y attends. Quand on était chacun de notre côté, d'accord, tout allait bien. Maintenant que je fais un effort, pac, je me prends sur la tête. Qu'est-ce qu'on te répond ? Je dis pas que la femme c'est Yitzhara, hein. Bon,
ouais.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réaction comme ça. Que quand on sent, quand un côté il sent que l'autre avance trop, ou bien qu'il va le dépasser, etc. Alors lui aussi fait de la résistance. Donc c'est un bon signe. Quand il y a une résistance, c'est un bon signe. Vous savez d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ça. Le soir du CDR, on a 4 enfants. Vous vous rappelez les 4 enfants ? C'est qui les 4 enfants ? Le Chacham, le Racha, le Tam, donc le Simplet, et le Chéné et Dalichol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Très bien. Et sur chacun des 4 enfants, la Agada parle. Elle lui dit, qu'est-ce que tu devrais lui dire ? Le Chacham lui explique les lois. Et le Racha, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que dit là-bas le verset? Il lui dit, Ve'af ata, toi aussi, akhe et chinav.
Ah oui, arrache-lui les dents.
C'est pas, oui, c'est arraché, c'est, ça veut dire, fais-lui grincer les dents. Et dis-lui, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, toi, si tu étais en Égypte, tu serais pas sorti. Bon, maintenant il sortira, mais en tout cas, s'il était en Égypte, tu serais pas sorti. Alors, j'ai lu une fois un commentaire qui dit la chose suivante. Il dit, mais quel rapport avec les dents? Pourquoi on lui dit, fais-lui grincer les dents? Je veux dire, pourquoi tu dis pas, mets-le, challenge-le avec un argument intellectuel, ou bien, je sais pas, conne-le si tu veux, mais quel rapport avec les dents maintenant? Hein? Non, je sais pas, mais quel rapport avec les dents? Pourquoi tu me parles des dents maintenant? Akechinav, grincer les dents. Alors, il répond comme ça. Le Rav qui fait, c'est un livre, un commentaire sur la Gada chez Pessah. Il dit que, il s'est posé cette question pendant des années, et il a eu la réponse une fois lorsqu'il est parti chez le dentiste. Comment? Lorsqu'il est parti chez le dentiste, une fois, il avait très mal à la dent. Et le dentiste, il est venu, il a pris avec des pinces, des trucs comme ça et tout. Et il y avait une dent qui faisait très mal. D'accord? Une dent qui, bon. Et le dentiste, il vient, il met ses petites piques là-bas, il touche, et il touche l'os. Et là, bien sûr, pack, donc le nerf. Il a sauté.
Ah oui.
Il a sauté, ça fait très très mal. Je sais pas qui c'est, bon, ouais, c'est vous avez. On saute, ça fait très très mal. Il a sauté. Et là, le docteur, le dentiste, il dit au Rav, il dit, c'est un bon signe.
Ah oui, c'est que la dent est vivante.
C'est que la dent est vivante.
La dent est vivante.
Donc, on peut faire quelque chose. D'accord?
Le mauvais signe, c'est que c'est pas un bon dentiste, qu'il a pas fait de radio.
Bon, c'est la technique de l'époque. C'est un livre d'il y a un siècle. Non, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit le dentiste?
Il avait peut-être un implant placé.
Qu'est-ce qu'il dit le dentiste? Le dentiste, il lui dit, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'os est en vie. S'il résiste, s'il réagit, ça veut dire qu'il est en vie. Et là, il a dit, le Rav, il a dit, quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai eu un flash par rapport à la Haggadah. Pourquoi dans la Haggadah de Pessah, quand on parle au Racha, on lui dit, fais-lui grincer les dents? Pourquoi les dents? Parce qu'il y a un message caché qu'on veut te dire ici. On te dit, sois content que le Racha, il est à la table et qu'il fait de la résistance. Parce que s'il fait de la résistance, c'est peut-être sa façon d'exprimer son désaccord, mais en tout cas sa façon d'exprimer son intérêt à la chose. Il est intéressé. Sauf qu'il n'est pas intéressé de la bonne façon, mais il est intéressé. Donc, il y a sur quoi travailler. Mais quand t'as quelqu'un qui est même pas à la table, ou bien il est à la table, mais il a strictement rien à faire, pour lui, il regarde à quelle heure c'est terminé. Celui-là, son os, il vit plus, c'est très compliqué. Une autre anecdote aussi que le Rav Sinzel raconte dans son livre. Je crois que je l'ai déjà raconté ça au cours de Tania, ça fait quelques temps. Le Rav Sinzel dans son livre, il raconte qu'une fois, lorsqu'il enseignait à l'université hébraïque de Jérusalem. Alors, à l'université hébraïque de Jérusalem, il enseignait un cours de Talmud, et à un moment, il a convaincu les professeurs, qui étaient là-bas, les autres professeurs qui enseignaient d'autres matières, qu'il fallait qu'il organise un cours de Talmud pour les professeurs. Donc, il a invité tous les professeurs à venir en cours de Talmud. Bon, ils sont tous venus. Bon, c'était un cours, ils venaient sans kippa, quoi. Hein. C'était purement intellectuel. Bon, c'est un cours, vous savez comment ils sont. Et il raconte là-bas, il dit qu'il y avait un des professeurs là-bas, un juif ashkénaze comme ça, qui est passé par beaucoup de choses dans sa vie, qui était très intellectuel, mais très très dur. Il voulait rien savoir. Chaque fois sans kippa, chaque fois il se moque, chaque fois il néglige, chaque fois, etc., dérision, etc. Et une fois, hein, bon, le Rav Sinzel fait comme si de rien n'était, parce qu'il disait la Torah va finir par le changer. Et une fois, il raconte que c'était un peu avant Kippour, et ce professeur, il dit donc au Rav Sinzel, il lui dit, vous savez, non seulement que je jeûne pas à Kippour, mais je mange du cochon à Kippour, et le jour de Kippour exprès. D'accord? Vous savez ce qu'a répondu Rav Sinzel?
C'est merveilleux.
Il a dit, mais vous faites Kippour alors? Il dit, quoi, je fais Kippour? Je fais pas Kippour! Il dit, oui, vous faites Kippour.
Parce que
vous y pensez.
Ben oui.
Ça vous fait quelque chose.
Ben oui.
C'est pas que Kippour, vous êtes comme tous les jours. Kippour, vous êtes pas comme tous les jours. Seulement, vous l'exprimez mal parce que vous avez une colère, etc. Mais il y a quelque chose. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Ouais. Ça veut dire, quand il y a une réaction de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est bon.
Ça veut dire, c'est un bon signe. C'est la même chose. Quand tu as un Yitzhar, ça fait des années que t'es pas embêté, ça veut dire, j'ai pas avancé. C'est un scoop, ça. Hein. Nous, on croyait toujours, Baruch HaShem, il m'embête pas, je suis bien, j'avance pas. Je suis Baruch HaShem, il me laisse tranquille.
Parce que j'ai mangé des cochons, il était pour.
Hein? Il te dit pas du tout. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a mangé?
La bière tenue.
Le Yitzhara, d'accord? S'il m'embête pas, c'est que je l'embête pas. S'il m'embête, c'est que je l'embête. C'est comme ça, c'est une histoire de terrain. C'est comme un terrain, voilà. Si je pousse un peu, monsieur Benhamou, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur
Benhamou?
C'est moi l'état, hein, c'est moi l'état. Alors, si je vous pousse un peu, qu'est-ce que vous allez faire? Il va me repousser. Si je le pousse pas, qu'est-ce qu'il m'a poussé depuis tout à l'heure? Non,
pas,
je suis pas rentré dans son terrain. Dès que je rentre dans son terrain, il rentre dans mon terrain.
Il y en a, ils vont se dire, je vais pas.
C'est pour ça, le Yitzhara, tant que tu rentrais pas dans son terrain, tu le laissais faire ses bêtises, et tu veux être fille là, chacun son domaine. Il dit, bon, lui, à la synagogue, on laisse tranquille, dehors, je m'occupe de lui.
Alors, ça veut dire un qui pour tranquille, c'est un qui pour foireux.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Parce que
il y a des moments où c'est particulier, on a plus de capacité. Mais ce que je veux dire, c'est que le Yetzarara, tant que tu rentres pas dans son domaine, il rentre pas dans le tien. Mais dès que tu rentres dans son domaine, que tu lui montres, que tu le pousses, là, il te pousse lui aussi dans ton domaine, qui est le domaine de la tefila. Et il va attendre le moment le plus fort. Il connaît tes faiblesses. Il va attendre le moment le plus fort dans lequel tu es en pleine tefila, etc. Dans ce moment-là, il va venir pour te casser les pieds. C'est comme ça. Donc, il faut être.
Des gens qui n'ont pas de Yetzarara, on va dire, du Yetzarara qu'on parle ici.
Oui, c'est possible. Ah oui, attention.
Qui a été naïf toute sa vie, qui n'a jamais cueilli habite dans un ghetto, un shtetl.
Il parle pas forcément de femmes ici, hein.
Si, Marchavot, on parle de femmes.
Non, il parle pas que de ça. Il a dit Marchavot.
Essentiellement, c'est ça.
Ça dépend pour qui. Non, mais ça peut être une pensée étrangère.
Oui, mais tu es d'accord avec moi que le petit juif du ghetto qui a une pensée de savoir ce qu'il va manger le soir pendant la Hamida, c'est pas la même chose que le juif qui a une pensée de femme pendant la Hamida.
C'est clair, oui.
C'est pas la même chose. Oui. Les deux s'appellent Marchavot Zarot, il y en a qui sont plus graves que d'autres. C'est pas pour autant que
non, mais globalement.
Mais globalement, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il est dans un moment qui est très fort. Peu importe à quoi il pense. Dans les deux cas, c'est le même problème. C'est qu'il est en train d'être occupé à faire quelque chose de très fort. Et il y a une pensée, aucun rapport qui vient dans la tête. Mais aucun rapport.
Elle est pas malsaine.
Je vais vous dire le pire, c'est quoi? Peu importe si c'est malsain ou pas. C'est qu'elle est Zara, elle est étrangère. Elle est à rien à faire ici. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire ici. En fait, des fois, il y a des pensées qui vont dans une relation. De cause à effet, ça veut dire que c'est une relation. On peut faire une relation entre la nouvelle pensée et la pensée d'avant. Par exemple, on peut imaginer par exemple quelqu'un est en train de faire la bracha refaïn ou Hashem venerafé, et là, puisqu'on demande à Hashem la refoua, la santé, donc il va penser à un proche qui est malade. Ça, c'est pas une pensée aucun rapport. C'est une pensée qui est liée, il y a un enchaînement. C'est pas de ça que je parle ici. Là, je parle d'une pensée qui te tombe dans la tête, aucun rapport.
Mais qui est
aucun rapport.
Hein? Une pensée moutarde.
Soit une pensée qui est interdite, c'est soit adapté. Une pensée qui n'a rien à faire maintenant.
Adapté, tu as. Mais si ça n'a rien à faire maintenant, en quoi c'est dérangeant?
Parce que comme cette personne-là, il a un Yetzara qui est raffiné, sa façon de déranger la personne, c'est en lui. Chacun ses armes. Les armes de ce Yetzara, c'est de penser à la Pkaïla de ce soir.
Ouais,
mais peu importe.
Je comprends.
La question n'est pas à quoi il pense, la question est le fait qu'on a réussi à le déconcentrer. Lui, il sera déprimé de ça. Il sera déprimé autant que l'autre qui a pensé à une femme. Je peux demander ce petit oasis. D'abord, on va dire le Chaim, faire une pause de Chaim.
La chasse qu'on a dit le Chaim.
Hein, David? On a dit le Chaim déjà?
C'est le Chaim, ça
dit. Faut resservir alors.
Non.
Il ne reste plus? Il n'y a plus rien? Alors, donnez-moi. Il te dit maintenant. Donc, Bessumo El Libo. Je suis au milieu de la page 30. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? D'accord? Donc, rappelez-vous de quoi on parle. On avait plusieurs catégories de déprime. Première catégorie de déprime, c'est une personne qui est déprimée parce qu'il y a des problèmes dans la vie. Ça, on a parlé au chapitre 26. Deuxième possibilité, c'est une personne qui est déprimée parce que. Parce qu'il sent que ça n'avance pas dans sa bonne attachée. Troisième catégorie, il est déprimé parce que au moment où il est en train d'étudier, au moment où il est en train de faire cette vie-là, à ce moment-là, il y a des pensées tordues qui lui viennent dans la tête. Qu'est-ce qu'on lui répond à celui-là? Plusieurs points. D'abord, on lui dit, sur place, tu n'y penses pas. Tu écartes ta pensée. Et même après coup, tu dois être joyeux de ça. Sache que tu dois être joyeux, tu dois être bessimra. Parce que si tu as de la résistance, ça veut dire qu'en vérité, c'est en train de prendre, donc c'est un très bon signe. Ok? Alors, on va continuer dans les mots. Bessoumo El Libo.
Quelqu'un qui, toute la journée, est baigné dans des mauvaises choses. Toute la journée.
Oui.
Il était en boîte de nuit toute la nuit, le matin, il va là-dessus, là. Qu'est-ce qu'il peut espérer? D'avoir des bonnes pensées?
Ah non, pas espérer, lui.
Donc, lui, enfin, le fait qu'il y ait des mauvaises pensées, c'est pas un signe positif pour cette personne.
Non, pour lui, non. Pour lui, c'est pas un signe positif. Mais, là, on parle pas de ce cas-là. Okay. On parle d'une personne qui a
On parle de gens qui sont dans la Torah, qui font.
Pas forcément, ou des gens qui sont chômeurs Shabbat, c'est qui sont des gens plutôt, voilà, qui suivent plutôt le chemin, voilà, bon. Plus ou moins.
Qui sont quand même.
D'accord? Qui sont plutôt, voilà, ils font la Torah, ils font comme il faut, ils font leur Shabbat, ils font leur fête, ils font leur mitzvah, leurs enfants sont en école juive. Ils avancent.
Okay.
D'accord? Et il a une pensée qui lui vient dans la tête, mais une pensée très basse, qui n'a rien à voir avec son vécu d'ailleurs. Okay. Quelque chose qui n'a rien à voir avec son vécu, qui n'a rien à voir avec lui. Il comprend pas. Il dit, mais qui a un rapport avec moi maintenant? Pourquoi je pense à ça maintenant? Alors il dit, mais sous moi, El Libo, faut prendre un cœur. Il faut réaliser que quand on a une pensée comme ça, cette pensée qui me vient en pleine Amida, cette pensée qui me vient en pleine fila, d'accord, en pleine étude, vient, d'accord, mais à Klipach et Bechal Asmali, elle vient du Yetzarara. Pourquoi? Aosa Milchama Bebenoni im Nefesh Elokit Shevo. Rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là dans les chapitres d'avant, ne vous détrompez pas, il y a une guerre. Au fond de nous, il y a une guerre. Il y a une guerre, d'accord, nucléaire, une guerre mondiale, entre eux, l'âme divine et l'âme animale, le bon penchant, le mauvais penchant, le Yetzer Tov, le Yetzer Hara. Et c'est pas parce que cette guerre ne se fait pas ressentir qu'elle n'est pas là. C'est comme dans une guerre, qu'est-ce qui se passe? Des fois, dans une guerre, il y a des stand-by. C'est comme le Hamas, ils marchent même. Ils sont arrêtés pendant quelques mois. Ils sont pas arrêtés. D'accord? Ils sont arrêtés parce qu'ils étaient plus en état de se battre, donc ils sont arrêtés. Mais ils veulent se battre encore. D'accord? Ils sont jamais arrêtés. Ça veut dire quoi? C'est la même chose. Quand j'ai un Yetzer Hara au fond de moi, ce Yetzer Hara ne croit pas que parce qu'il t'a arrêté de t'embêter qu'il n'est plus là. Il est là et il veut toujours les mêmes objectifs. Il est toujours là. Et alors? Comme c'est connu l'habitude de ceux qui se battent. Ainsi que ceux qui se battent, pas seulement ils se battent, d'accord, avec une, comment on appelle ça, avec des flèches. Qui se battent, qui luttent. Vous savez que dans la guerre, il y a deux types de guerres. Il y a une guerre lointaine, on envoie des missiles, on envoie des flèches. Il y a une guerre corps à corps. Laquelle est plus forte d'après vous?
Corps à corps, la plus difficile.
Laquelle est plus difficile?
C'est corps à corps. La plus dure, c'est
le corps à corps. Corps à corps, c'est tellement fort qu'il s'enlace et tu sais même pas s'il s'aime ou il se déteste. Mais c'est un moment très très fort, ça veut dire que on va jusqu'à la dernière goutte. Quand on envoie des flèches, bon, on envoie des flèches, on vise, on a bien visé, mal visé. Bon, après on rentre à la maison. Mais quand c'est du corps à corps, ça veut dire, je partirai pas d'ici tant que c'est pas réglé. C'est la même chose. On a deux types de Yetzer Hara. Il y a des fois notre Yetzer Hara, c'est les flèches. De temps en temps, tu envoies des petits flashs comme ça. Tchic. Ça, c'est le Yetzer Hara qui est en mode guerre, guerre lointaine. Mais il y a des fois notre Yetzer Hara, il se bat avec nous en mode combat. Ça veut dire que c'est du corps à corps, il ne clash pas. Et il y a des phases dans notre vie où on est comme ça, des phases dans notre vie où on est comme ça. Et tu dis encore une fois, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, il veut se battre avec toi. Soit il t'envoie des flèches de temps en temps, soit il va se battre au corps à corps, mais il est là, il ne te lâchera pas. Et même quand tu crois qu'il n'est pas là, il est toujours là. Et donc c'est pour ça, on voit très bien dans ce monde, quand il y a des gens qui se battent dans les guerres, soit dans les guerres à distance, soit dans les guerres au corps à corps, qu'est-ce qui se passe? On voit que chez Had Mitgaber, dès que le premier, il va se renforcer, Azai Hasheni Mitamet Litgaber, le deuxième aussi, il va se retrouver, à retrouver des forces en lui qu'il ne savait même pas qu'il avait. Vous me suivez?
C'est qui le premier, c'est le deuxième?
Peu importe. C'est-à-dire, quand il y en a un qui se reprend, l'autre va se retrouver des forces en soi qu'il ne savait même pas qu'il avait. C'est la même chose. Ton Yetzer Hara, il croyait qu'il était par terre. Quand tu l'as montré ce que tu as dans le ventre, lui aussi te montre ce qu'il a dans le ventre. Donc, Azai, à ce moment-là, Hasheni mit Ametz ou mit Gaber Gamken, Bechol Mamatze Kocho. D'accord? Le deuxième fera toutes ses forces aussi. Velachen, c'est pour ça, que Shenefesh Elokit mit Ametzet. Lorsque l'âme divine fait un effort, ou mitgaberet, et qu'elle se renforce, leit palel pour prier. Qu'est-ce que je fais quand je suis en prier? J'attaque mon âme animale de front, parce que qu'est-ce que veut mon âme animale? Mon âme animale, elle veut être dans la vie mondaine. Elle veut être dans la vie de tous les jours, elle veut se laisser aller, elle veut pas qu'on l'embête. Quand maintenant j'ai mon âme animale, je lui dis, écoute maintenant, on rentre à la synagogue, et tu vas te concentrer, tu vas pas juste lire le texte, tu vas te concentrer, tu vas te casser la tête. Yeah, t'entends, doucement, et où me casser la tête, là? Moi, j'ai pas envie de prendre la tête. Sinon, tu vas te casser la tête. Je le force à venir avec moi. Imagine quelqu'un qui ne veut pas venir avec toi, tu vois, t'as un ennemi qui va venir avec toi, tu le forces, tu le prends avec toi, tu le mets avec toi dans la synagogue. Parce que le Yetzer Hara, on ne laisse pas dehors, il rentre avec nous. D'accord? Je le rentre avec moi. Et il ne veut pas venir. Et même s'il veut venir, il dit, bon, je viens, mais je suis sur mon iPhone, moi, tu me déranges pas. Tu dis, non, tu vas venir. Tu vas te casser la tête, on va se casser, on va penser à Dieu maintenant. Il dit, mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de tout ça, moi. Quand tu le forces, le Yetzer Hara, et quand tu vas faire un effort, l'Itamet ou l'Itgaber, se renforcer, d'accord? Faire des efforts. Alors, Azai, Gama, Klipa, Gaberik, Nagda. Là, ma animal dit, mais attends, je crois que je vais me laisser faire. Moi aussi, je vais te montrer ce que j'ai de l'autre côté. Moi aussi, je vais t'embêter. Les Valbella, pour l'embrouiller. Ou les Apila, mais Marchavas, Zarajela, et pour la faire tomber avec une mauvaise pensée. Les Valbella, vous savez ce que c'est, les Valbelles? Les Valbelles, c'est embrouiller et c'est même déstabiliser. Comment on déstabilise quelqu'un? Pas forcément en lui donnant un bon argument. En lui donnant un argument qui le fait arrêter ce qu'il est en train de faire. Vous me suivez? Ça veut dire que, imaginez, par exemple, quelqu'un, il débite. Et on l'arrête. Peu importe ce que tu lui as dit. Tu peux l'arrêter avec une peau de banane, tu peux l'arrêter avec ce que tu veux. Tu l'as arrêté. Dès que tu l'as arrêté, tu l'as embrouillé. ce qu'il dit, etc. Et tu sais, il dit, je vais tout essayer. Je mets les trucs dans la tête, ça passe pas. Ce qui compte, c'est qu'il s'arrête. Je veux juste qu'il s'arrête. Et vous savez très bien comment ça s'arrête, etc. Une fois qu'il nous a eu et qu'on s'est arrêté dans l'Amida, eh ben après, du coup, tu peux te retrouver au Seychellum, tu dis, mais attends, Seychellum, j'ai fait l'Amida là. Je ne sais pas où je suis passé. Et, d'accord, ça arrive, tu vas au Seychellum, tu vois, l'Amida elle est passée vite. Tu dis, mais attends, depuis quel moment je réfléchis plus là? Des fois, tu sais même pas. T'as oublié. Hop, je vais à l'Amida. D'accord. Je fais l'Amida, je sais pas où j'étais. C'est passé.
Bon, il y a le calque.
Hein?
Il y a le calque.
Et quoi?
Il y a le calque qui me rattrape.
Non, c'est ça le chat, c'est ce qu'il dit ici. Tu dis, quand j'ai fait une Amida comme ça endormi, bah, c'est que finalement il s'est rien passé. C'est-à-dire, l'Amida elle est passée, moi j'étais pas dedans.
C'est ça, voilà.
Comme il y a un exemple que le Rassidim lui donnait. Ils disent que le train il est passé, mais moi je suis pas monté dans le train. Il y avait un train qui est parti, qui a avancé, qui est parti de la gare, qui arrive à destination. Tout s'est bien passé, mais moi j'étais pas dans le train. J'étais pas dedans. Je suis venu, j'étais à la gare, mais j'étais pas dedans. C'est la même chose. On peut être dans la tefila, on peut venir à la tefila, faire la tefila, mais ne pas être dans la tefila.
Ça veut dire être concentré.
Et là, le tzara, je te garantis qu'il te dérange pas, les tzara. Là, le tzara, il te laisse tranquillement, pas de problème.
Parce qu'il a gagné.
Il a déjà gagné. Il a gagné ou pas, en tout cas tu l'as pas dérangé.
3 mises à par jour.
T'as pas touché à son terrain. Quoi?
3 mises à par jour, on peut pas être dedans toute la mise.
Mais j'ai pas dit que ça n'arrive pas. Ce qui dérangeait le Benoni ici, c'est comment ça se fait que la seule fois, une fois sur 100 où ça décollait, tout d'un coup le Yitzhara lui a une pensée tordue.
Une fois sur 100?
Bien sûr.
Oui.
Azaï?
Si, si, une fois sur 100, oui.
Une fois sur 100, t'as mis la barre haute.
Quoi?
Ça nous fait de la marge.
Une fois sur 10. Quoi, une fois sur. Bah oui. Non, une fois sur 100 où ça marchait.
Oui, j'ai compris.
T'as commencé à dire en général, ça marche pas. Ça marche pas en général.
Une fois par mois.
Une fois sur 100, on arrive au moins à 50%.
Faut espérer. C'est quand la dernière Amida que tu te rappelles avoir une Kavana, vive et que t'as vécu d'Amida.
Je peux pas me juger moi-même.
Non, réponds à ma question. C'est quand la dernière Amida que tu te rappelles, cette semaine.
Je peux pas me juger moi-même.
Ça fait 15 jours. C'est quand la dernière Amida que tu te rappelles que t'as baigné dans l'Amida à tel point que tu sentais que l'Amida elle te parlait et tu parlais à l'Amida.
C'est quoi ce que ça veut dire?
Ah bah, ça répond pas, tu te retournes du pot. Il fait tunisien là.
Voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, à mon niveau, toute
la misère. Moi, je suis incapable de te répondre à cette question. Il y a des fois des petits mots. Bien sûr, quand tu entends des événements qui se passent en Israël, automatiquement, tu fais ta fille avec plus de kavana, ah oui, etc. Ouais. Maintenant, te rappeler qu'une Amida, elle t'a parlé, que tu as parlé à l'Amida.
Mais ça te parle automatiquement.
T'es dedans. Peut-être un morceau, parce que j'étais intéressé.
Voilà, c'est ça.
Parce que ça parle de la refoua, ça parle de la parnassa. Donc, dis bon, j'ai un gros coup à faire aujourd'hui à Kadosh Baruch Hou. Voilà, parnassa, tu m'arranges le coup, hein. Tout aura le maaser, t'inquiète pas.
Pas du tout. Mais d'accord. On parle d'Israël, d'Abraham, de Yaakov, ça nous parle.
Oh là. Mais après, je t'explique.
Bon, j'ai vu dans le désordre. Mais ça nous parle. Après.
Vas-y, en quoi ça te parle, David? Explique-nous, là.
Je comprends pas.
Et non, on veut, dit, et on veut, servez-nous la même chose que.
De là dire qu'on met de la ferveur de notre prière,
c'est très simple David. Si le Yitzhara me dérange pas dans ma Amida et que ça fait un bout de temps qu'il m'a pas dérangé, c'est que c'est pas normal.
Mais si, parce que comment tu contres le Yitzhara?
Non.
Comment il agit? Tu te renforces?
Oui, mais bien sûr je me renforce.
Ah oui.
Mais ça veut dire que je dois sentir que je me renforce.
Justement.
Si je me renforce pas, c'est qu'en vérité, je fais ma mida avec une routine, mais que j'avance pas. Voilà. Donc, il faut sentir que ça force, c'est tout.
Sinon, ça fait une routine.
Mais c'est comme les sportifs. Ils ont tout le temps mal, tu sais. Tu sais qu'ils ont tout le temps mal. Parce que, tu sais, mais ils s'habituent. Non, parce qu'après, une fois qu'ils s'habituent à ça, ils visent plus haut maintenant. Donc, il a tout le temps mal. Et pourtant, c'est un sportif. Parce que c'est comme ça que ça marche.
Ça fait l'ambition.
Parce qu'il faut toujours, parce que quand tu sens que ça force, c'est que ça avance. Donc, il dit, alors dans les mots, velo ketahu taolam. Et là, on va revenir à la question de Nickel. Velo ketahu taolam. Page 34. Il faut pas faire la même erreur que les gens font, que le monde fait. Chez Toïm, que les gens se trompent. L'argument qu'on a dit tout à l'heure. Leochiar minefilat amarshavazara, que les gens, ils se dépriment tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, puisque j'ai eu une pensée tordue, miklal, shen tfilatam kloum. Ils disent, ah, de là, c'est une preuve que ma tfila ne vaut rien. Chez lui, il peut aller le karaoui, parce que si j'avais prié comme il faut, venachon, et comme il se doit, l'œil ne fait le marché à la tzara. Ça, c'est la réaction naturelle. On se dit, oui, si vraiment j'aurais fait une bonne tfila, jamais j'aurais rien kavana comme ça. Mais c'est une erreur de penser comme ça. Vea, mais taïa qui dit vrai, mais alors là, écoutez bien pourquoi c'est faux. Et tu dis, tu sais dans quel cas ça aurait été vrai? Ça aurait été vrai ce qu'ils disent. Im aitan nefeshachat levada. Tu sais dans quel cas ça aurait été vrai? Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une idée qui peut s'expliquer que par le Tania. Pourquoi? Je vais revenir à une idée qu'on a expliquée depuis le début du Tania. Les gens pensent qu'au fond de nous, on a deux penchants. Un penchant vers le bien, un penchant vers le mal. Du style, tu vois, j'ai un gouvernail, une fois il vire à droite, une fois il vire à gauche. Les gens pensent que c'est le même gouvernail. Une fois il vire à droite, une fois il vire à gauche. Donc c'est pour ça, comme les gens ils pensent ça, là effectivement, si tu penses que c'est comme ça, là tu peux dire, attends, j'ai viré à droite maintenant. Je suis en train de faire ma mida, qu'est-ce que tu me vires à gauche? C'est pas possible. Le même gouvernail, il vire à droite, il vire à gauche. Mon Razaka te dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'as pas un gouvernail en toi, t'as deux gouvernails.
Un gouvernail avec des gouvernails.
D'accord? Des gouvernaux? Gouvernail, non? D'accord. Alors, t'as pas un, t'as deux gouvernails en toi. T'as l'âme divine et l'âme animale. Alors, t'as un gouvernail, l'âme animale, tu l'as un peu endormi. Mais quand le gouvernail de l'âme animale, il sent, d'accord, que l'autre, il est en train d'avancer, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais attends, mais moi aussi, je suis là. Ça veut dire comme ça. S'il y avait un seul gouvernail dans la personne, s'il y avait qu'un seul maître dans la personne, mais qu'une fois il va en bien, une fois il va en mal, là, effectivement, le fait qu'une mauvaise pensée arrive dans ma tête, c'est une preuve qu'il y a un problème. Comment je peux bifurquer à gauche d'un coup alors que je suis à droite? Mais il te dit, c'est pas le cas. J'ai pas un gouvernail, j'ai deux gouvernails, j'ai deux moteurs. Et puisque j'ai deux moteurs en moi, le fait que le deuxième moteur s'est réveillé, c'est pas une preuve que le premier moteur ne marche pas. Le premier moteur, il marche très bien. Et au contraire, comme il marche trop bien, alors l'autre, il dit, mais attends, moi, je vais lui montrer que je marche aussi. Donc le fait que le deuxième moteur s'est réveillé, c'est pas une preuve que le premier ne marche pas. S'il y avait un seul moteur, là, on aurait dit, effectivement, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Ça va? Bonsoir, oui.
Ah, c'est Mickaël.
Simon, pardon, il est là. Il est parti, je crois.
Viens t'asseoir, viens t'asseoir.
Ah, oui.
Il arrive, là.
Ça va? Alors, il dit comme ça. Donc, s'il y avait un seul moteur, s'il y avait qu'une seule âme qui fait les deux, qui fait les deux postes, là, j'aurais pu dire, c'est pas normal. Comment tout d'un coup, elle a viré? En pleine amida. Mais, il dit, donc on continue, il dit, alors, dans les mots, Aval Behemet Lamito, en bas de la page 34, j'accélère un peu parce qu'on a déjà fait beaucoup à l'oral. Aval Behemet Lamito, mais en vérité, dans la vraie vérité, c'est-à-dire si on va dans le fond des choses, Emchte Nefashot, Amilchamot, Zoimzo, Bemroch Aladam. C'est pas une âme que j'ai au fond de moi, mais c'est deux âmes. Et chacune des deux âmes se bat. Les deux, elles se battent.
C'est deux moteurs.
Et elles s'éteignent jamais. Elles sont tout le temps là. Kol achat trev tzaur sonalim sholbo. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 9. Quelle est la volonté de chaque âme? Chaque âme, elle veut avoir le contrôle intégral du corps. L'âme divine, elle veut contrôler intégralement le corps, que le corps se comporte exclusivement bien. L'âme animale veut aussi le contrôle exclusif du corps. Les deux veulent le contrôle exclusif du corps. V'chol irure à Torah, v'yirat shamay minefesh elokit, v'chol milid alma minefesh abemit. Et là, en fait, c'est intéressant parce que cela nous fait un petit condensé du chapitre 9. Vous êtes avec moi? Allez, rabote, on va suivre dans les mots. Page 35, en haut de la page. Il nous fait un condensé du chapitre 9. Il dit qu'en vérité, toutes les pensées de Torah qu'on a, de qui elles viennent?
L'âme divine.
L'âme divine. Toutes les pensées de ce monde-ci, pas forcément de faute, mais de ce monde-ci, de qui elles viennent? Elles viennent de l'âme animale. Et les deux fonctionnent indépendamment. Et deux secondes, chacune fait un effort pour prendre le contrôle du corps. Parce qu'il y a un seul corps, il n'y a pas deux corps. Il y a deux moteurs, mais il y a un corps.
Un cerveau.
Mais c'est le leadership.
Et c'est soit t'as un moteur qui vire à droite, l'autre moteur qui vire à gauche. Mais il y a une seule voiture.
Comme l'hybride.
D'accord? Donc c'est soit l'un qui marche, soit l'autre qui marche. Et quand les deux ils marchent, chacun est de son côté, ben, c'est très très dur pour la voiture. Mais juste t'as une voiture, t'as un moteur qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche.
Elle avance pas.
Et ben voilà, elle est bloquée. Ou bien elle avance très 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 difficilement. Elle arrive pas à avancer. Mais c'est exactement ce qui se passe en nous. Là, vous avez un exemple de ce qui se passe en nous. T'as un côté, l'âme animale, elle tire à gauche. D'un autre côté, l'âme divine, elle tire à droite. Et c'est en même temps les deux comme ça. Donc c'est pour ça qu'il te dit, quand un, il sent que l'autre, il avance trop, et ben l'autre aussi il se réveille.
Donc ça veut dire que quand tu es dérangé dans la tefila, même si tu penses que tu as avancé, mais en réalité tu n'as pas avancé.
Bien sûr, tu as avancé, au contraire.
Non, t'es dérangé, mais tu n'as pas avancé.
Si.
Parce qu'il y a un moteur qui vient à droite et un moteur qui vient à gauche, au final.
Oui, j'ai compris, mais comme tu avances un petit peu trop vite, donc l'autre il se réveille.
D'accord, ok.
Donc ça veut dire que ça avance. Donc c'est bon.
Avec quelle.
L'âme divine. Toutes les mitzvot, c'est l'âme divine. C'est l'âme divine, c'est sûr. Excellent, chapitre 9. Toutes les mises, c'est l'âme divine. Alors, Rak Sheilokit Melubeshetba. Sauf que, quand je fais une mitzvah, comme on a dit tout à l'heure, je force l'âme divine à s'habiller dans l'âme animale. En d'autres termes, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la synagogue, je force, d'accord, je force le rachat à rentrer avec moi dans la synagogue. Mais il reste avec moi, il est en moi. Et là, le Mora Zaken, il va donner un exemple extraordinaire. Regardez jusqu'à où il va pousser à la caricature.
C'est très Chabad. Hein,
ah oui, c'est très Chabad. D'accord. Ça ne le cache pas. Hein. Alors.
Vous demandez à quoi, Dan, hein? À rien de mieux.
Alors, écoutez bien l'exemple qu'il va donner ici. Je trouve cet exemple extraordinaire. D'ailleurs, c'est un exemple que le Rabbi citait souvent. Vous avez la page 35 en bas, au milieu de la page. Enfin, un peu après milieu. Écoutez l'exemple qu'il va donner. Ve'u kemashal Adam amit palel bekavana. Imaginez l'exemple d'une personne qui est en train de prier bekavana. Imaginez, vous êtes ici à la synagogue, au Beit Chabad, en train de faire la tfila, avec kavana. Ve'omed l'enegdo arel racha. Et devant vous, il y a un païen, un racha, un impie, qui vient devant vous, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ou messiah, et il discute, ou met la berimo, et il parle avec toi. Mais attends, moi je fais ma midah. Qui aide les vélos pour l'embrouiller. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à discuter maintenant avec lui, dire attends, et peut-être qui veut ça. Qu'est-ce qui m'embête celui-là? Qui me casse les pieds maintenant? Je suis tranquille. On va faire un celui-là.
Tout qu'on avec des trucs qui ont rance.
Et sur la responsabilité unique du lecteur. D'accord?
Vas-y, je te téléphone tout à l'heure.
Alors, voilà, il est là, il te casse les pieds. D'accord? C'est-à-dire que c'est même pas un enfant. C'est pas que c'est un enfant qui comprend pas. C'est quelqu'un qui est grand, c'est un adulte. Il voit que tu fais cette fille-là. Il te casse les pieds exprès pour t'embêter. Bah, imaginez que le Yitzhara, c'est la même chose.
Qui t'a envoyé celui-là pour.
C'est pour ça que c'est écrit. Vous savez comment on appelle le Yitzhara dans la Torah? Hagoy Asher Bekirbecha. Le goy qui est en moi. On a un goy en nous.
Dans la gauche.
Il y a un juif et il y a un goy.
C'est le fameux.
C'est pas le sens.
C'est le goy littéral.
Non, évidemment. Il y a un goy, il y a un juif et il y a un goy.
D'accord.
Bien sûr. J'ai un goy. D'accord. Il dit ici maintenant. Alors, chez Zot, alors maintenant, je vous pose une question. D'accord. Imaginez maintenant, donc on va en prendre cet exemple. Je suis en train de faire ma mida, tranquillement, d'accord, dans une aire d'autoroute, je ne sais où, à la synagogue, et il y a un goy qui vient. D'accord. Non, qui me lâche pas. Il me casse les pieds. En pleine amida, qu'est-ce que je fais?
Je lui offre un verre d'eau.
Alors, non, attendez, justement. C'est la grande question qu'avait le prophète, pardon, qu'avait le roi Salomon. Grande question qu'il avait. Quand quelqu'un me dit une bêtise, est-ce qu'il faut lui répondre ou il faut pas lui répondre? Est-ce qu'il faut lui répondre en le repoussant? Ou est-ce qu'il faut même pas lui répondre? Qu'est-ce que répond le roi Salomon? Le roi Salomon dit, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est venu, bon, le pauvre il est bête, mais bon, il veut comprendre. D'accord. D'accord. Alors, dans ce cas-là, annexil keivelto. Dans ce cas-là, réponds à un imbécile comme son imbécilité. Ça veut dire, donne-lui des exemples qui lui parlent.
Voilà.
Exactement. C'est-à-dire, voilà, il te pose une question bête, pose une question qui est enfantine, réponds-lui comme un enfant. Pourquoi? Parce que c'est pas de sa faute. Il veut comprendre, mais il n'arrive pas à l'expliquer à son niveau. Mais quand c'est quelqu'un qui est pas bête, il est là pour t'embêter. Ne rentre pas dans son jeu. Parce que l'argument qui va te sortir maintenant, c'est juste une excuse. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il t'a embêté, c'est tout. Aujourd'hui, il va te dire ça, demain il va te dire ça, demain il va te dire ça, mais peu importe l'argument qui va sortir. Ne lui réponds pas parce que c'est pas la question qu'il t'a posée, c'est pas ce qui le dérange vraiment. Et ça, on voit des fois. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous embêtent. Ça peut arriver. Et tu sens qu'il t'embête. Pourquoi tu sens qu'il t'embête? Parce que tu sens que ce qu'il te demande, c'est pas des choses qui le dérangent. C'est juste pour t'embêter. Pour te casser les pieds. Demain, il te dira autre chose. Donc, toi, t'as envie de répondre à la question pour lui faire plaisir. Mais en vérité, tu réponds pas à une question, tu réponds à une personne. Ça, je me rappelle quand j'étais à New York, une fois, il y avait un rave dans une formation qui nous avait dit, quand quelqu'un vous pose une question dans un cours, n'oubliez jamais que vous répondez pas à une question. Vous répondez à une personne. C'est très très fort, ça. Pareil, quand t'as un enfant qui vient te raconter que je dis, papa, tu sais ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Alors, t'as envie de lui répondre, ou bien ta femme te raconte, elle dit, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc nous, en tant qu'homme, tout de suite, remarque, on a envie de plonger, de dire, voilà, je vais l'expliquer, C'est pas ça. La question n'est pas qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça aurait dû se passer, c'est pas ça. Il y a des choses au-delà de ça. C'est qu'elle veut te raconter sa journée, il veut te raconter sa journée, il veut te parler, c'est tout. Donc, ne rentre pas dans le jeu de dire, je vais répondre, aurait dû faire ci, aurait dû faire ça. C'est pas le but. D'accord? Alors, c'est la même chose. Mais là, c'est en mal, de l'autre côté. pour le Yitzhara et pour ce goy qui t'embête. Quand je suis en train de faire ma tefila et qu'il y a le goy qui vient m'embêter, d'après vous, qu'est-ce que je fais avec le goy? Je vais lui répondre? Je vais lui dire, mais non, écoute, tu comprends, c'est pas ce que tu penses, etc. Ou je le calcule pas? Évidemment, je le calcule pas parce que je comprends que c'est un imbécile, il vient là pour m'embêter. Mais c'est la même chose avec le Yitzhara. Ne tombe pas dans le piège de discuter avec le Yitzhara, de lui dire, non, mais je vais lui expliquer qu'il se trompe. Non, laisse tomber. Il sait qu'il se trompe, il en a rien à faire. Lui, il veut t'embêter, c'est tout. Ne commence pas à dire, oui, mais je vais lui expliquer qu'en vérité, faire cette avéra, c'est pas mon bien, et ça va me faire tomber, etc. Ne rentre pas dans ce piège. Le Yitzhara, il sait mieux que toi, ça va le faire tomber. Tu crois que c'est pas? Ne rentre pas dans ce piège. Lui, ce qu'il veut, c'est juste t'occuper, te t'embrouiller, te déranger. Donc, ne tombe pas dans ce piège. Ça, c'est l'exemple du goy. Ça, c'est l'exemple du goy, c'est un exemple que le rabbi ramenait très, très souvent dans les mamarim et dans les sirotes. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'imagine-toi, quand je suis en train de faire ma tefila, il y a un goy qui est devant moi et qui m'embête. Il est là, il m'embête. Et il t'aura, alors, tu vois, dès que tu regardes pas, tu tournes à droite, il dit, t'as pas vu ça encore? Hein? Ah, t'as pas vu ça encore? Mais, évidemment, si tu vas regarder et lui dire, non, ça m'intéresse pas, il va continuer, il va dire, ah, mais attendez, est-ce que ça vous intéresse?
Mais est-ce que le
ne lui réponds pas.
Ça marche, ou pas.
Est-ce que le quoi?
Le coup de boule. Ça marche à ce moment-là.
Mais le problème, c'est que.
Je peux pas le faire.
Il est très fort.
C'est pour ça, on est acheté le cash à bazar.
C'est plus grand que toi.
Hein?
Ça va. Vrai,
tu connais pas l'anecdote, enfin, l'anecdote avec l'Admorazaken. Une fois, il y avait un chassid. Un chassid, enfin, il était pas encore chassid. Il s'appelait Shmuel Munkes. Par la suite, il est devenu Rabbi Shmuel Munkes. Et il a entendu parler de l'Admorazaken, donc l'auteur de ce livre. Alors, il a décidé de venir à Liadi pour aller rencontrer l'Admorazaken et pour devenir son chassid. Bon, il arrive à Liadi. La seule maison où il y a de la lumière, bien sûr, c'est qui? C'est la maison de l'Admorazaken. Alors, il toque à la porte, d'accord? Il toque à la porte et il dit bonjour, je voudrais dormir ici. L'Admorazaken lui dit, écoutez, voilà, il y a une auberge là-bas, etc. Moi, je suis désolé, on n'a pas de lit ici à la maison, voilà, etc. Gentiment, il lui dit. Et l'autre, il a compris avec qui il avait affaire. L'autre, il dit, non, je veux dormir chez vous, Rabbi. Dormir chez vous. Alors, Rabbi dit, désolé, je peux pas. J'ai pas de quoi vous recevoir, etc. Bon, on s'arrangera, mais là, maintenant, je peux vous recevoir. Alors, l'autre, il insiste, blata, tu vois. Il dit, non, je veux pas, Rabbi, je veux pas, etc. Alors, l'Admorazaken, il lui dit, écoutez, si vous insistez, je vais devoir appeler le goy. Parce que, bon, il avait un goy à Shamash, d'accord? Quelqu'un qui fait le boulot. Je vais devoir appeler le goy pour qu'il me mette dehors.
Sécurité.
Et là, la sécurité, voilà. Et là, le chassid, je prends le mounkes, enfin, il était pas encore chassid, mais il répond à l'Admorazaken, il lui dit, Rabbi, mon goy, il est plus fort que le vôtre. Là, le rabbi entendit ça, et après, c'est devenu son chassid. Il a dit, mon goy, il est plus grand que le vôtre. Il n'a même parlé pas de goy, moi je sais ce que c'est un goy. C'est la même chose.
Bon, Sassaf, il a dormi où?
Ça, l'histoire, je connais pas le sujet de l'histoire. Je sais pas s'ils ont dormi, à mon avis, ils n'ont pas dormi après ça.
Il faut passer au-dessus de l'histoire, pas dans l'histoire, parce que par là, mettez-le en pause. Pas compris.
Ok. Alors, donc dans les mots, il dit, ou les kayem hachekatou, il faut accomplir ce qui est écrit. Alta an ksil kei valto. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit que le roi Salomon pose la question. D'un côté, il y a un verset dans Michelet, dans les proverbes qui dit, réponds à un imbécile comme son imbécilité. C'est-à-dire, réponds-lui dans son langage. D'un autre côté, il y a un verset qui te dit, ne réponds pas à un imbécile, d'accord, dans son imbécilité. Comment ça marche? C'est très simple. C'est exactement comme dans un cas comme ça. Quand c'est un cas dans lequel c'est juste un prétexte qui te demande, en vérité, il veut t'embêter, ne lui réponds pas. Ce goy-là qui t'embête, tu vas lui répondre. C'est très bien qu'il veut t'embêter, il te casse les pieds. Il n'a pas besoin de ça. D'accord? C'est comme des fois, par exemple, tu sais, tu vois, ça m'arrive des fois, on va dans les manifestations pour aller mettre les tefilines aux gens. Et t'as des gens, toujours des remarques comme ça qui viennent t'embêter. Et ils disent, ah, mais pourquoi vous faites passer? Pourquoi vous faites passer? Etc. Des goyim, d'accord? Des goyim, des antisémites. Tu vas pas leur répondre. Qu'est-ce que tu vas répondre? C'est pas la question qui dérange, c'est moi qui le dérange. Donc je lui réponds pas. J'ignore. Et ça, c'est un classique, hein. Bah, vous avez dû en rencontrer, ça, certainement. Là, qui t'embête? Il te pose des questions bêtes. Mais il t'embête pour rien. Ne rend pas dans son jeu. Faut faire comme les politiques. Quand on pose une question au rapport, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à autre chose, ils racontent leur agenda. Ou encore mieux, tu réponds pas. D'accord?
C'est la langue de voix.
Car, pareil, al yashiv me uma, veshum ta'ana uma anenega marshavazar. Donc, pour conclure. De la même manière, quand le Yitzhara, il m'envoie une bêtise, qu'est-ce que je fais, David? L'autre, David, hein, pas l'autre. Alors, il a dit en pause, je vois.
C'est comme un volcan.
Non, mais David, il a des questions. David, il a des questions qui le dérangent vraiment. C'est pas ce thème pour parler. Il y a des gens qui parlent pour parler. pour continuer dans l'idée du cours. Alors, hein? J'ai pas dit qui est quoi.
Je pense à autre chose.
Hein?
Je pense à autre chose.
Ah, c'est vrai. Dans les cours, il y a deux types de questions. Il y a des gens qui posent des questions Parce qu'ils ont besoin de parler. D'accord. Et j'aime poser des questions parce que vraiment, il y a des choses qui les dérangent. Ah, c'est voilà, pas la même chose.
Il y a des gauches, qui te demandent quelque chose. Oui. Si tu ne réponds pas, ils te prennent pour un bête.
T'as besoin de parler ou...
Je vais te donner un exemple. Des fois, je marche dans la rue. Des fois, je marche dans la rue. Je te donne un exemple, d'accord. Tu le sens, ça, tu le sens.
Tu comprends pas.
Non, ça veut dire que
tu... Voilà. Tu entends... Tu entends. Des fois, par exemple, je marche dans la rue. Il y a des... Très souvent, ça m'arrive ça. À moi ou à mes enfants, d'accord, quand j'ai avec les enfants. Et il y a des goïms qui me regardent et qui me disent « Mais monsieur, à quoi ça sert, là, vos fils ?»
Dis-lui, je suis un
juste, attendez, mais attendez. Mais juste
rabbins sans fil.
Juste de la façon, comment ils te posent la question.
On est wifi.
Je comprends. Est-ce que c'est une question curieuse? Oui. Est-ce que bon, il a envie de comprendre?
Oui, la sincérité.
Ou est-ce que c'est une question comme ça, il a envie de se moquer? Non, après, les filles, pourquoi t'en es tordu, toi? C'est quoi ces questions? C'est une question qu'un rapport. Ça veut dire que dans la question, tu comprends. Tu comprends si c'est une question sincère?
C'est
ce que je dis, ça dépend, ça dépend.
Il faut sentir.
Le Yetzer Hara, quand il te met une pensée dans la tête, d'accord? Quand il te met à penser à une avéra que t'as fait ou il te met à penser des trucs comme ça dans un moment aucun rapport, ne tombe pas dans ce piège.
La réponse est pour pas oublier.
Ne lui parle pas parce qu'il n'est pas intéressé à t'écouter. Il ne veut pas t'écouter, il veut juste t'embêter. Il pense qu'à lui. Le Yetzer Hara, il est égoïste.
Enfin,
il ne veut pas t'écouter. Il n'est pas curieux. Quelqu'un curieux, c'est quelqu'un qui est là pour écouter. Mais quelqu'un qui veut t'embêter, c'est pas quelqu'un qui est là pour écouter, quelqu'un qui est là pour t'embêter. Ça va que dans un sens. Donc ne le renvoie pas, il n'accepte pas de toutes les façons. Donc c'est ce que tu fais, tu passes ta route. D'accord ? Voilà. Alors, on continue.
Tu regardes, tu expliques le cours après.
Alors,
avec plaisir. Mmh. Autour d'une
qu'est-ce qu'il y a, David ?
Hein ? Deux pizzas à la vodka.
Juste pour parler.
Il faut essayer.
Alors, Rakam.
Ah ouais.
Avec des petites mots.
Les chiens à bois.
La caravane.
Voilà. Non, okay. Non, je parle du Yetzer Hara, là, quand il t'embête. Il laisse-le aboyer. Eh ben, il aboie et la caravane passe.
T'as marqué comme ça, non?
Normalement, c'est juste la caravane passe.
Ouais. Hein?
Dans l'épisode de...
Voilà. Kamita bek imnimu val mitna vel gamken. Rak seulement. Alors là, écoutez bien ce qu'il dit. Là, il rajoute encore quelques phrases. Bon, c'est bientôt l'heure, mais je rajoute encore juste quelques phrases. Toujours. Il dit comme ça. Il dit, quand tu te bats avec quelqu'un qui est sale,
Tu te salis.
C'est la même chose. Tu te bats avec le Yetzer Hara. Je vais lui expliquer qu'il ne faut pas penser à ça, il ne faut pas penser aux femmes, il ne faut pas penser à ci, il ne faut pas penser à ça. Quand tu te bats avec lui, avec une saleté, et ben tu deviens sale. Plus tu le gardes loin, mieux c'est. Rak seulement, il y a assez atzmo que le yodéa. Vous savez, c'est curieux comment dans ce chapitre, l'Admor HaZaken, il est vraiment très très long. Vous avez vu comment il développe, il étaye, etc. Beaucoup plus que d'habitude. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous les jours, ça. Rak yasé atzmo ke lo yodéa. Il faut qu'il fasse comme si qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a rien compris. Velo shomea. Ça veut dire, il fait l'ochmar, tu fais l'ochmar. Il t'embête avec des questions bêtes, tu fais comme si que t'as rien entendu. C'est pas à moi d'être mal à l'aise, c'est à lui d'être mal à l'aise. Ah oui, c'est ça en vérité. Quelqu'un il vient de poser une question bête. Si tu lui réponds pas, qui c'est qui est mal à l'aise? Il se sent bête le gars. Il dit, mais attends, j'ai vraiment dire un truc bizarre. Mais quand j'ai envie de lui répondre, c'est moi qui est mal à l'aise. Je dis non, c'est pas moi d'être mal à l'aise. Moi je fais ma tefila maintenant. Qu'il n'a qu'à me laisser tranquille. Moi, je l'ignore. Je fais comme si qu'il m'a rien dit. Veyasira midato, il faut que j'enlève. Donc, velo shemage, veyasira midato, il faut enlever cette pensée de sa tête. Veyosif omets vekoar kavanato. Maintenant, écoutez bien. Je termine avec ça. Maintenant, des fois, ce qui peut arriver, c'est que j'aimerais bien repousser la pensée de ma tête. Mais j'arrive pas. Ah, une fois qu'elle est venue, elle t'a attrapé en plein milieu de... Ashiva shoftenu, pac. Elle t'a attrapé. Et c'est fini. Tu essaies de la repousser, cette pensée de rejet, elle te lâche pas. Qu'est-ce que tu fais?
Tu t'arrêtes.
Ah, je veux bien. Tu me dis le goy, ne l'écoute pas, fais pas attention, etc. Et en vérité, c'est un bon signe, Bessimra. Oui, mais d'accord. Mais entre temps, j'ai un goy qui est dans ma tête et j'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce que je fais?
Tu pries.
Alors là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Azaï, à ce moment-là, pas seulement prier, il est en train de prier déjà. Azaï, à ce moment-là, je suis dans trois paragraphes avant la fin de la page 36. Yashpil nafsho lachem. Il faut rabaisser son âme devant Dieu. Veitranen loit bar me marchafto. Et supplier Dieu en pensée. Dieu, je t'en supplie. D'accord? Le supplier à Kadosh Baruch Hu. Les rachem alav rachamav merubim. Je dis, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu. Aie pitié de moi. Je sais que c'est pas un mauvais signe si j'ai eu des pensées comme ça. Mais concrètement, j'arrive pas à faire ma mida maintenant. Je suis bloqué maintenant. J'ai un goy qui est devant moi qui me fait barrage. J'arrive pas à avancer. Je t'en prie à Kadosh Baruch Hu. Je me baisse devant Kadosh Baruch Hu. Aie pitié de moi. Aie pitié qui rachem avalbanim, anim shachim imoro. Comme un père aurait pitié sur ses enfants. De la même manière, toi, Kadosh Baruch Hu, nous sommes tes enfants. D'accord? Aie pitié de moi. Vekacha, et ainsi, Yerachem Hashem El Nafsho, Dieu aura pitié de son âme. Anim Shechet Meito Itbarer, puisque notre âme vient de Dieu, on est les enfants de Dieu. Leatzila Mimaim Azedonim, pour sauver la Neshama des eaux impétueuses. D'accord? C'est une expression. Les eaux impétueuses, c'est quoi? C'est les pensées. C'est-à-dire, c'est les pensées qui peuvent nous noyer. Maïm azedonim. D'accord, c'est un terme biblique. Ça veut dire les eaux, d'accord, les eaux impétueuses, les eaux qui peuvent nous noyer. Et on va demander à Kadosh Baruch Hu. Ou le manoyase, qui chélek Hashem à mamash amo, et à Kadosh Baruch Hu, Bémet, il nous aidera. Pourquoi? Parce que à Kadosh Baruch Hu, on est une partie de lui, donc c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, il fera tout pour nous.
Il faut prier d'accord doucement ou il faut prier?
Non, ça l'aide. Il faut?
Est-ce qu'il faut prier doucement ou est-ce qu'il faut prier?
Ça dépend, ça dépend chacun comme il se connaît.
Comment?
Je veux répondre à la question par une autre question. Une fois, les chassidim polonais se posaient la question suivante. Ils disaient, quand on fait la Amida, est-ce que c'est mieux d'aller vite en se disant que plus vite je vais, moins j'ai de risque que le Yitzhara m'attrape?
Oui, oui.
D'accord? C'est comme les go fast, hein, d'accord? Mm-hmm. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non. On va dire, il faut prendre son temps. Alors, les chassidim disaient la chose suivante. Ils disaient à quoi ça ressemble? C'est comme un train. Ça va, à l'époque, il y avait l'habitude dans les trains, que ça coûtait très très cher les trains pour aller les autres. Donc il y avait le train, il partait. Bon, je sais quoi, il y avait le coup de sifflet, le train il partait. Et après, ceux qui n'avaient pas de quoi payer, ils se payaient un billet. Ils se mettaient à 500 mètres de la gare. Et dès que le train était déjà en marche, donc c'est les parasites, ils s'accrochaient au train. Alors quelle technique ils faisaient pour ne pas être touchés par ces parasites? Ils essayaient de mettre les plus gros moteurs et de mettre le paquet au démarrage. Comme ça, dès que possible, le train il va tellement vite qu'on peut pas l'accrocher. D'accord? Alors le chassidim, il disait comme ça, il disait c'est la même chose. Il y a des gens qui vont te dire pour la tefila, ils vont te dire décolle le plus vite possible et atterris le plus vite possible. Tout le temps que tu es en l'air, c'est un danger. Il faut atterrir tout de suite, il faut atterrir le plus vite possible. C'est pour ça qu'ils tracent. Mais d'un autre côté, il y avait des chassidim rabat qui leur répondaient, qui leur disaient mais ce qui peut se passer, c'est que le train il a décollé, l'avion il a décollé et que toi t'es pas dedans. Ça veut dire qu'à force de vouloir faire décoller le train trop vite et de dire il faut qu'il arrive vite, mais du coup t'es même pas dans le train. Comprenez comment? Donc, finalement, il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire, il faut que j'arrive, que la Amida soit pas trop trop longue. Parce qu'on n'est pas à qui fera la Amida le plus long possible. Ce qui compte, c'est qu'il faut que je sente que j'arrive à maîtriser ma pensée et que je suis à fond dedans. C'est mieux de faire 4 minutes de Amida dans laquelle je suis à fond dedans que de dire que je fais 10 minutes, mais que dans les 10 minutes, concrètement, il y avait une minute par-ci, une minute par-ci, une minute par-là. C'est mieux de faire 4 minutes bien. Maintenant, bien sûr, dire je fais 2 minutes, mais du coup, il y a 0 minutes, on n'a rien gagné non plus. Donc c'est un juste milieu.
C'est la même chose que pour les filles, en fait.
C'est oui, exactement, même pour les filles. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que si on a des pensées... Alors, je ne vous souhaite pas de mauvaises pensées dans la vie qu'on va faire tout de suite. Mais si ça vous arrive, sachez que c'est un excellent signe. Et ça montre que, Baruch HaShem, ça avance. Voilà. Entre-temps, on espère quand même que ça n'arrive pas. Parce que comme on dit, le Rabbi disait, tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu, « Altevienu l'idée Nisayon ». On demande à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas dans les épreuves. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des qui vont dire, ah, c'est tellement important de tenir dans une épreuve pour Kadosh Baruch Hu, alors je vais me mettre dans l'épreuve et je vais tenir. Non. Voilà. Mais si ça arrive, on sait qu'en vérité, voilà. Mais si ça arrive, on doit savoir qu'en vérité, c'est un sens. Donc ça, c'était le chapitre 28. Bezrat Hashem, je vous donne le preview du chapitre 29 la semaine prochaine. D'accord? Là, ça va chauffer la semaine prochaine. Vous me suivez? Alors, la semaine prochaine. Vous voulez pas écouter, hein? Alors.
Il veut qu'on fasse FaceTime pour la semaine prochaine.
Alors, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, ce qu'on va expliquer à Bezrat Hashem, c'est comment faire quand on sent le Benouli, sent qu'avec tous les efforts qu'il fait, ça décolle pas. Il a un cœur de pierre. Comment faire pour secouer? Et là, vous allez venir nous secouer la semaine prochaine.
Ah, oui, mais ça, c'est une physique.
Il va nous secouer. C'est-à-dire, là, jusqu'à maintenant, si tu veux, on se dit, bon, t'inquiète pas, c'est pour toi, etc. Mais des fois, t'es tellement noyé dans les bêtises que tu sens que ton corps, ça lui fait plus rien. Tu viens à un cours de Tania, tu viens à un cours de Torah, tu viens à la Tfila, t'as fait Rosh Hashanah, Yom Kippour. Rosh Hashanah, il est passé, Yom Kippour, il est passé, tout est passé. Moi, j'étais à côté. Mon cœur est de pierre, comme si que c'est rien passé. Comment faire pour bouger un petit peu? Comment faire pour vivre? Comment faire pour réveiller ce cœur? On aura les éléments de réponse la semaine prochaine. Tu peux pas l'endormir. Il faut le secouer.
Non,
ça doit être le premier chapitre,
Mendy.